RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie, la revue suivante, magazine culturel et apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Auditeurs de l'antenne, vous êtes à l'écoute des informations de la voix de l'Indonésie à Jakarta. Les titres. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie organise Jakarta International Conversation on Human Rights. L'IAEA est prête d'aider l'Indonésie à développer des centrales nucléaires. L'armée indonésienne prévoit de compléter les installations complémentaires du système d'armement principal l'année prochaine. Et voici donc les informations complètes. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie a ouvert Jakarta International Conversation on Human Rights lundi 5 février. Dans son discours, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a rappelé l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Déclaration de Vienne comme l'instrument qui a engendré les principes fondamentaux appelés droits de l'homme. Cette conférence est organisée pour commémorer 70 ans dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la 25 ans Déclaration de Vienne et son programme d'action.
Through this Jakarta International Conversation on Human Rights, Indonesia is proud to take part.
À travers Jakarta International Conversation on Human Rights, l'Indonésie est fière de participer au 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et au 25e anniversaire de la Déclaration de Vienne et de son programme d'action. Les deux instruments ont réalisé les principes liés aux droits de l'homme, entre autres l'universalité, l'objectivité et la non-sélectivité, la non-politisation et la coopération. Et après 70 ans, ce principe est très important dans le monde aujourd'hui, où les conflits, le crime organisé et les catastrophes dans le monde provoquent de grands problèmes humanitaires.
La ministre Retno Marsudi a également rappelé l'importance de la coopération des différents éléments pour faire face aux questions relatives aux droits de l'homme. Parce que cette fois-ci, les questions liées aux droits de l'homme provoquent souvent l'instabilité des relations internationales, tant dans la région et dans le monde. Cette conférence internationale est également organisée pour évaluer la mise en œuvre des droits de l'homme globalement. Par conséquent, dans cette conférence, la ministère des Affaires étrangères a également invité toutes les couches communautaires à assister et fournir une évaluation sur la mise en œuvre des droits de l'homme dans le monde. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a souligné les violations des droits de l'homme commises à Rohingya, à Rakhine, au Myanmar lors de la conférence internationale de Jakarta sur les droits de l'homme. Cette conférence a été tenue lundi 5 février à Jakarta par le ministère indonésien des Affaires étrangères. Par son discours, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, a déclaré que le génocide et le nettoyage ethnique sont susceptibles d'avoir eu lieu à Rakhine au Myanmar. La déclaration est basée sur le témoignage direct des réfugiés. Les atrocités racontées par les réfugiés, dont la moitié est des Rohingyas vivant dans le nord du Rakhine, comprennent des assassinats brutaux, des disparitions forcées, des détentions arbitraires, des violences sexuelles atroces et la destruction des maisons et des moyens de subsistance. Bien que toute conclusion définitive devrait être faite par un tribunal compétent, mon bureau considère que des actes de génocide et de nettoyage ethnique ont pu se produire. Zeid Ra'ad Al Hussein a ajouté qu'en plus d'avoir commis des actes de violence contre les ethniques de Rohingya Rakhine, le gouvernement du Myanmar a également refusé d'accorder la citoyenneté, le statut légal et les certificats de naissance aux Rohingyas de Rakhine, ce qui ont des implications pour la perte de leurs droits en tant que citoyens du Myanmar. Selon lui, cette crise humanitaire est sérieuse, avec un impact potentiellement grave sur la sécurité de la région de l'Asie du Sud-Est. Par conséquent, il espère que le gouvernement du Myanmar pourrait résoudre cette crise en concentrant sur le plan de développement socio-économique à Rakhine. La question des droits de l'homme est l'une des questions importantes dans les relations internationales qui continuent d'attirer l'attention de divers pays à ce jour. Par conséquent, divers pays dans le monde pourraient accomplir diverses actions liées à l'amélioration de la mise en œuvre des droits de l'homme au niveau national, l'une d'elles par le renforcement de l'Institution nationale des droits de l'homme. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie dans son discours à la Conférence internationale sur les droits de l'homme à Jakarta lundi.
L'action concrète au niveau national devrait être faite par le législatif et le cadre institutionnel dans le domaine des droits de l'homme doit être poursuivie. L'agenda des droits de l'homme doit être intégré au gouvernement central et local. La campagne nationale pour les droits de l'homme doit être renforcée. La campagne pour les droits de l'homme et l'éducation doivent être intensifiées.
Retno Marsudi a ajouté que l'Indonésie, pendant deux décennies, a essayé de continuer à renforcer la mise en œuvre des droits de l'homme au niveau national. Selon elle, le plan national sur les droits de l'homme en Indonésie a atteint la quatrième génération depuis 1998 et continuera d'être mis à jour. Au niveau international, l'Indonésie elle-même jusqu'à présent, par sa diplomatie pacifique et humanitaire, continue de jouer un rôle actif dans la promotion des droits de l'homme et de coopérer sur cette question. Auditeurs et auditrices, vous êtes toujours à l'écoute des informations de la Voix de l'Indonésie. L'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, est prête à donner l'assistance à l'Indonésie pour le développement des centrales nucléaires. Mais AIEA souligne qu'il n'interviendra pas et soumettra la décision au gouvernement indonésien. Cela a été déclaré par le directeur général de l'AIEA, Yukiya Amano, après sa rencontre avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, A.M. Fakhir, à Jakarta, lundi.
And IAEA can assist if you decide, but it is up to you to decide.
Et l'AIEA peut aider si l'Indonésie qui décide, mais tout dépend de l'Indonésie. Et l'AIEA n'interviendra pas si un pays, que ce soit l'Indonésie ou le Bangladesh, décide d'utiliser l'énergie nucléaire. Nous pouvons aider à utiliser l'énergie nucléaire de manière sûre et durable. Selon le Yukiya, l'AIEA soutiendra pleinement l'Indonésie parce que l'énergie nucléaire est aujourd'hui l'une des sources d'électricité les plus respectueuses de l'environnement. L'énergie nucléaire a ses avantages. L'électricité nucléaire a plus faible teneur en carbone. Aujourd'hui, un tiers de l'approvisionnement en électricité à faible émission de carbone est généré de l'énergie nucléaire. La question du développement des centrales nucléaires en Indonésie était discutée depuis longtemps. Un certain nombre de pays ont offert leur coopération pour la construction de la première centrale nucléaire en Indonésie. L'armée indonésienne souhaite que les planifications stratégiques soient réalisées en 2018 au cours du programme de son premier jour de commandant de TNI ou l'armée indonésienne, le maréchal Hadi Cahyanto. C'est ce qu'a affirmé le chef d'état-major de l'armée indonésienne, le général Mulyono, en marge de la réunion des dirigeants de l'armée indonésienne 2018 au siège à Jakarta lundi. Mulyono a déclaré que les objectifs atteints sont les conseils d'organisation, la doctrine, le personnel, le développement des capacités, le matériel et l'utilisation du pouvoir pour la guerre ou outre la guerre. Cependant, concernant le système d'armement principal TNI-AD où l'armée nationale se concentrera sur l'équipement des installations complémentaires. Je les complète, je ne vais pas réaliser un nouveau système d'armement principal, mais seulement compléter ce que nous avons acheté. J'observe le nouveau système d'armement principal en 2018 et 2019. Ce que nous avons déjà acheté doit être complété pour être fonctionné. Le général Mulyono a expliqué que l'armée indonésienne continue d'accorder une attention prioritaire à l'achat de nouvelles armes basées sur le budget, de sorte que dans le deuxième plan stratégique, l'armée indonésienne souhaite que tous les systèmes d'armement principaux puissent être opérés immédiatement. Notre dernière information pour aujourd'hui, le festival du lac Sentarum par le gouvernement de la région de Kapuasulu, par l'intermédiaire du Bureau de la jeunesse, du sport et du tourisme, prépare le festival du lac de Sentarum qui aura lieu au mois d'octobre l'année 2018. Le chef de l'agence de la jeunesse, du sport et du tourisme de Kapuasulu, Antonius, a dit à Pustusibau, Kapuasulu, Kalimantan Ouest, lundi que cette année, le festival du lac de Sentarum aura lieu du 27 au 29 octobre. L'objectif du festival est pour attirer les touristes étrangers. Auditeurs et auditrices, c'était les informations de la Voix de l'Indonésie, Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir les auditeurs, auditrices dans le quatre coins du monde. Veuillez donc écouter maintenant le commentaire pour aujourd'hui. La diplomatie des palmiers, l'effort pour construire l'image de l'huile de palme de l'Indonésie. L'huile de palme est le produit excellent de l'Indonésie. Le Bureau central des statistiques a noté que comme en 2016, les exportations d'huile de palme et de ses produits dérivés en 2017 resterait le principal contributeur des devises de l'Indonésie. Bustanul Arifin, professeur à la faculté d'agriculture de l'université de Lampung, prévoit que jusqu'à 10 prochaines années, le volume et la valeur des exportations de l'huile de palme et de ses produits dérivés continueront d'augmenter. Cependant, Bustanul Arifin a rappelé aux hommes d'affaires et au gouvernement que les questions de durabilité continuerait d'être un obstacle aux exportations d'huile de palme. Lors du 40e sommet annuel de la coopération ASEAN-Union européenne à Manille, aux Philippines, le 14 novembre 2017, le président Joko Widodo a confirmé devant les participants que l'huile de palme est très proche de réduire la pauvreté en Indonésie et l'écart et de construire une économie inclusive. D'autre part, le Parlement européen soutient l'interdiction de l'utilisation de l'huile de palme comme carburant écologique à partir de l'an 2021. Pourtant, l'Europe est l'une des principales destinations d'exportation de l'huile de palme indonésienne. Le ministre du Commerce, Enggar Tias Tolukita, et la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, ont affirmé que cette campagne était une campagne noire en Europe contre les produits de l'huile de palme indonésien. La politique de l'Union européenne est considérée comme discriminatoire. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, a demandé d'arrêter la discrimination de l'Union européenne contre l'huile de palme indonésienne. Un certain nombre d'attitudes et de politiques qui sont considérées comme nuisant aux intérêts économiques et nuisant à l'image des pays producteurs de l'huile de palme doivent également être éliminées. Pendant ce temps, l'observateur économique de l'Institut pour le développement de l'économie et des finances, INDEF, Bima Yudhistira, estime que l'Indonésie se concentre toujours sur les marchés traditionnels qui atteignent environ 70% du total des pays destinataires d'exportation. Selon Bima, il est préférable qu'en 2018, l'Indonésie recherche des marchés alternatifs parmi lesquels le Pakistan, l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord qui sont considérés comme très potentiels. Depuis l'an 2011, l'Indonésie a mis en place une politique obligeant un système durable de gouvernance et de certification de l'huile de palme durable nommée l'huile de palme durable indonésienne, ISPO. Cette politique vise à améliorer la compétitivité de l'huile de palme indonésienne sur le marché mondial, en accordant plus d'attention aux problèmes environnementaux comme les émissions de gaz à effet de serre, etc. Pour construire l'image de l'huile de palme indonésienne comme une huile végétale qui a l'ISPO dans le monde entier, en particulier dans le pays d'exportation, le rôle des diplomates indonésiens à l'étranger est nécessaire. Cette politique est connue sous le nom de diplomatie du palmier. Afin de soutenir les efforts du gouvernement pour mener la diplomatie de palme, l'Agence de l'étude du développement des politiques BPPK du ministère des Affaires étrangères coopère avec l'Université de Pertamina pour faire une étude applicative. L'étude des relations internationales à l'Université de Pertamina est axée sur le secteur de l'énergie en Indonésie. Le 1er février 2018, un protocole d'entente a été signé entre les deux institutions. L'Agence de développement du ministère des Affaires étrangères considère l'Université de Pertamina comme un partenaire de coopération dans la production d'études et de recommandations relatives à la politique étrangère indonésienne, y compris sur les secteurs stratégiques des produits de base comme l'huile de palme. La coopération entre le gouvernement, l'industrie et les universités est considérée comme très stratégique pour encourager la diplomatie de palme visant à contrecarrer la campagne noire de l'Union européenne contre l'huile de palme de l'Indonésie. On s'attend à ce que l'huile de palme de l'Indonésie soit toujours le principal contributeur de devises pour l'Indonésie. Auditeurs et auditrices, c'était donc le commentaire.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers amis, voici l'histoire aujourd'hui. Le 6 février 1904, la guerre russo-japonaise. La guerre entre le Japon et la Russie a été commencée le 6 février 1904 comme une attaque de l'armée japonaise contre les troupes russes en Chine. Auparavant, en 1898, la Russie a incité la Chine à louer le port Arthur, qui est très stratégique dans le nord de Mandchourie. La Russie a ensuite essayé d'étendre son occupation en Mandchourie. La guerre russo-japonaise a pris fin avec la victoire du Japon. En septembre 1905, grâce aux médiateurs américains, la Russie et le Japon ont signé le traité de Portsmouth, qui contient de soumettre la Mandchourie, la moitié de l'île de Sakhalin et la Corée au Japon. Le 6 février 1922, la signature du traité de Washington. La Cour navale de Washington signe le 6 février 1922 pour limiter les armes en mer. La Conférence internationale sur la limitation des armes tenue à Washington a pris fin avec la signature du traité de Washington le 6 février 1922. Cet accord a été signé par les cinq pays participants de la conférence, à savoir la France, le Royaume-Uni, le Japon, l'Italie et les Pays-Bas. Selon cet accord, l'utilisation de tout type de gaz chimique, les produits chimiques toxiques et le gaz engourdissement dans la guerre est interdit. Quelques années plus tard, en juin 1925, à travers le protocole à Genève, la plupart des pays du monde ont signé un accord de ne pas utiliser de gaz tueur dans la guerre. Ce traité limite la construction de navires de combat, navires de croiseurs de combat et de porte-avions. Les autres types de navires sans restriction sont les croiseurs, les destroyers et les sous-marins, mais leur poids est limité à 10 000 tonnes au maximum. Ce traité a été ratifié à Washington le 17 août 1923. Le 6 février 1952, Elisabeth II devient la reine. Elisabeth était le premier enfant du roi George VI. Le 6 février 1952, le roi George VI est mort et Elisabeth II a été proclamée comme le président de Commonwealth, une fois la reine des sept Commonwealth naturels au royaume du Commonwealth, à savoir le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Pakistan et Sri Lanka. Maintenant, la reine Elisabeth II est la reine de la monarchie constitutionnelle de 16 États souverains et des territoires et de leur dépendance, ainsi que le chef de 54 membres des pays du Commonwealth. La reine Elisabeth est également le gouverneur de l'Église d'Angleterre. C'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique « Mon Indonésie » intitulée « Quatre piliers de la nationalité devient un renforcement de l'harmonie en Indonésie ». L'Assemblée consultative du peuple, ou MPR, continue à socialiser quatre piliers de la nationalité pour la jeune génération de l'Indonésie. De temps en temps, le MPR continue à socialiser les quatre piliers de la nationalité qui soutiennent l'existence de la nation indonésienne. Cela a été déclaré par le membre du MPR, M. Irgan Khairul Mahfiz, lorsqu'il a socialisé quatre piliers de la nationalité pour les étudiants de l'Université de Muhammadiyah Kupang, 3 février, cité par postkupang.com. L'événement a été également assisté par le président des Frères musulmans indonésiens, ou par Musi, M. Usama Hisam. Selon Irgan Khairul Mahfiz, les quatre piliers sont Pancasila, la Constitution 1945, Bhinneka Tunggal Ika, et l'État unitaire de la République d'Indonésie, ou NKRI. Comme la maison, si elle n'est pas forte, elle s'effondrera et il y aura un problème sans fin, comme ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Par conséquent, il a demandé « Maison Indonésie doit être bien entretenue par tous les éléments de la nation, notamment par les jeunes générations. » Aujourd'hui, avec l'accès à l'information si rapide, affectera l'état d'esprit. Irgan Khairul Mahfiz a rappelé que le potentiel de vie harmonieuse doit être maintenu. L'Indonésie a une variété de langues, ethniques, cultures et des milliers d'îles. Cette diversité est le capital de base du développement. Les Indonésiens sont très reconnaissants de vivre sur la terre indonésienne, bien que différente, mais toujours une. Le peuple indonésien vit dans un esprit de paix et non comme dans d'autres pays qui continuent de fluctuer. Cependant, le président de la Fraternité musulmane indonésienne, ou Parmusi, M. Usama Hisham, invite la jeune génération, notamment à NTT, à bien garder Pancasila. Selon lui, la jeune génération doit tenir fermement à ses quatre piliers de la nationalité, établir les bonnes relations avec n'importe qui sans regarder la différence. Selon Hisham, à travers la socialisation des quatre piliers de la nationalité, il invite la jeune génération à garder le peuple indonésien à rester en sécurité et en paix. La première précepte jusqu'au cinquième précepte de Pancasila sont interreliés et c'est ce qui amène des relations de fraternité entre le peuple de l'Indonésie, a déclaré Usama Hisham. Il a rappelé aux jeunes de comprendre les quatre piliers du nationalisme comme un consensus mutuel qui ne peut pas être séparé l'un de l'autre. Chers amis, c'était Modernisie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie a ouvert Jakarta International Conversation on Human Rights lundi 5 février. Dans son discours, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a rappelé l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Déclaration de Vienne comme l'instrument qui a engendré les principes fondamentaux appelés droits de l'homme. Cette conférence est organisée pour commémorer 70 ans dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la 25 ans Déclaration de Vienne et son programme d'action.
Through this Jakarta International Conversation of Human Rights, Indonesia is proud to take part.
À travers Jakarta International Conversation on Human Rights, l'Indonésie est fière de participer au 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et au 25e anniversaire de la Déclaration de Vienne et de son programme d'action. Les deux instruments ont réalisé les principes liés aux droits de l'homme, entre autres l'universalité, l'objectivité et la non-sélectivité, la non-politisation et la coopération. Et après 70 ans, ce principe est très important dans le monde aujourd'hui où les conflits, le crime organisé et les catastrophes dans le monde provoquent de grands problèmes humanitaires.
La ministre Retno Marsudi a également rappelé l'importance de la coopération des différents éléments pour faire face aux questions relatives aux droits de l'homme. Parce que cette fois-ci, les questions liées aux droits de l'homme provoquent souvent l'instabilité des relations internationales, tant dans la région et dans le monde. Cette conférence internationale est également organisée pour évaluer la mise en œuvre des droits de l'homme globalement. Par conséquent, dans cette conférence, la ministère des Affaires étrangères a également invité toutes les couches communautaires à assister et fournir une évaluation sur la mise en œuvre des droits de l'homme dans le monde. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a souligné les violations des droits de l'homme commises à Rohingya, à Rakhine, au Myanmar lors de la conférence internationale de Jakarta sur les droits de l'homme. Cette conférence a été tenue lundi 5 février à Jakarta par le ministère indonésien des Affaires étrangères. Par son discours, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zaid Ra'ad Al-Hussein, a déclaré que le génocide et le nettoyage ethnique sont susceptibles d'avoir eu lieu à Rakhine au Myanmar. La déclaration est basée sur le témoignage direct des réfugiés. Les atrocités racontées par les réfugiés, dont la moitié est des Rohingyas vivant dans le nord du Rakhine, comprennent des assassinats brutaux, des disparitions forcées, des détentions arbitraires, des violences sexuelles atroces et la destruction des maisons et des moyens de subsistance. Bien que toute conclusion définitive devrait être faite par un tribunal compétent, mon bureau considère que des actes de génocide et de nettoyage ethnique ont pu se produire. Zaid Ra'ad Al-Hussein a ajouté qu'en plus d'avoir commis des actes de violence contre les ethniques de Rohingya Rakhine, le gouvernement du Myanmar a également refusé d'accorder la citoyenneté, le statut légal et les certificats de naissance aux Rohingyas de Rakhine, ce qui ont des implications pour la perte de leurs droits en tant que citoyens du Myanmar. Selon lui, cette crise humanitaire est sérieuse, avec un impact potentiellement grave sur la sécurité de la région de l'Asie du Sud-Est. Par conséquent, il espère que le gouvernement du Myanmar pourrait résoudre cette crise en concentrant sur le plan de développement socio-économique à Rakhine. La question des droits de l'homme est l'une des questions importantes dans les relations internationales qui continuent d'attirer l'attention de divers pays à ce jour. Par conséquent, divers pays dans le monde pourraient accomplir diverses actions liées à l'amélioration de la mise en œuvre des droits de l'homme au niveau national, l'une d'elles par le renforcement de l'Institution nationale des droits de l'homme. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie dans son discours à la Conférence internationale sur les droits de l'homme à Jakarta lundi.
L'action concrète au niveau national devrait être faite par le législatif et le cadre institutionnel dans le domaine des droits de l'homme doit être poursuivi. L'agenda des droits de l'homme doit être intégré au gouvernement central et local. La campagne nationale pour les droits de l'homme doit être renforcée. La campagne pour les droits de l'homme et l'éducation doivent être intensifiées.
Retno Marsudi a ajouté que l'Indonésie, pendant deux décennies, a essayé de continuer à renforcer la mise en œuvre des droits de l'homme au niveau national. Selon elle, le plan national sur les droits de l'homme en Indonésie a atteint la quatrième génération depuis 1998 et continuera d'être mis à jour. Au niveau international, l'Indonésie elle-même jusqu'à présent, par sa diplomatie pacifique et humanitaire, continue de jouer un rôle actif dans la promotion des droits de l'homme et de coopérer sur cette question. Auditeurs et auditrices, vous êtes toujours à l'écoute des informations de la Voix de l'Indonésie. L'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, est prête à donner l'assistance à l'Indonésie pour le développement des centrales nucléaires. Mais AIEA souligne qu'il n'interviendra pas et soumettra la décision au gouvernement indonésien. Cela a été déclaré par le directeur général de l'AIEA, Yukiya Amano, après sa rencontre avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, A.M. Fakhir, à Jakarta lundi.
And IAEA can assist if you decide, but it is up to you to decide.
Et l'AIEA peut aider si l'Indonésie qui décide, mais tout dépend de l'Indonésie. Et l'AIEA n'interviendra pas si un pays, que ce soit l'Indonésie ou le Bangladesh, décide d'utiliser l'énergie nucléaire. Nous pouvons aider à utiliser l'énergie nucléaire de manière sûre et durable. Selon le Yukiya, l'AIEA soutiendra pleinement l'Indonésie parce que l'énergie nucléaire est aujourd'hui l'une des sources d'électricité les plus respectueuses de l'environnement. L'énergie nucléaire a ses avantages. L'électricité nucléaire a plus faible teneur en carbone. Aujourd'hui, un tiers de l'approvisionnement en électricité à faible émission de carbone est généré de l'énergie nucléaire. La question du développement des centrales nucléaires en Indonésie était discutée depuis longtemps. Un certain nombre de pays ont offert leur coopération pour la construction de la première centrale nucléaire en Indonésie. L'armée indonésienne souhaite que les planifications stratégiques soient réalisées en 2018 au cours du programme de son premier jour de commandant de TNI ou l'armée indonésienne, le maréchal Hadi Cahyanto. C'est ce qu'a affirmé le chef d'état-major de l'armée indonésienne, le général Mulyono, en marge de la réunion des dirigeants de l'armée indonésienne 2018 au siège à Jakarta lundi. Mulyono a déclaré que les objectifs atteints sont les conseils d'organisation, la doctrine, le personnel, le développement des capacités, le matériel et l'utilisation du pouvoir pour la guerre ou outre la guerre. Cependant, concernant le système d'armement principal TNI-AD où l'armée nationale se concentrera sur l'équipement des installations complémentaires. Je les complète, je ne vais pas réaliser un nouveau système d'armement principal, mais seulement compléter ce que nous avons acheté. J'observe le nouveau système d'armement principal en 2018 et 2019. Ce que nous avons déjà acheté doit être complété pour être fonctionné. Le général Mulyono a expliqué que l'armée indonésienne continue d'accorder une attention prioritaire à l'achat de nouvelles armes basées sur le budget, de sorte que dans le deuxième plan stratégique, l'armée indonésienne souhaite que tous les systèmes d'armement principaux puissent être opérés immédiatement. Notre dernière information pour aujourd'hui, le festival du lac Sentarum par le gouvernement de la région de Kapuasulu, par l'intermédiaire du Bureau de la Jeunesse, du Sport et du Tourisme, prépare le Festival du lac de Sentarum qui aura lieu au mois d'octobre l'année 2018. Le chef de l'Agence de la Jeunesse, du Sport et du Tourisme de Kapuasulu, Antonius, a dit à Pustusibau, Kapuasulu, Kalimantan Ouest, lundi que cette année, le Festival du lac de Sentarum aura lieu du 27 au 29 octobre. L'objectif du festival et pour attirer les touristes étrangers. Auditeurs et auditrices, c'était les informations de la Voix de l'Indonésie, Jakarta.
Les émissions de la Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voines.id/french.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la province de Lampung. Donc restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, La Voix de l'Indonésie. Outre par l'intermédiaire de Lonkurt, vous pouvez aussi écouter notre émission par www.wenews.fr. Lampung est une province située le plus sud de l'île de Sumatra. Située à 45 minutes de vol de Jakarta, Lampung possède des destinations touristiques maritimes, aventures, le parc national et aussi des visites historiques. Lampung possède le parc archéologique Pugung Raharjo, qui est un patrimoine culturel. Le parc organise un voyage de temps à l'époque préhistorique de l'hindouisme, du bouddhisme et de l'islam. L'emplacement est au village de Pugung Raharjo, le district de Sekampung Udik, la région de Lampung Est, située à environ 52 km de la ville de Bandar Lampung. Ce parc archéologique peut être atteint pendant 2 heures par le transport terrestre. Arrivant au parc archéologique Pugung Raharjo, vous pouvez aller directement dans l'attraction touristique car c'est gratuit. En ayant sur le site de 6 hectares, vous profiterez immédiatement de la beauté naturelle de ce site qui se situe au milieu de la plantation de maïs et loin de la communauté résidentielle. Vous pouvez voir un certain nombre de sites anciens tels que la forteresse de Château, 6 sites Punden Berundak, le site Batu Mayat et l'étang mégalithique. La forteresse en forme de tranchée, en forme carrée, s'étend sur tout le site archéologique. Le château et la tranchée rassemblent maintenant un énorme tertre recouvert de terre et envahi par les herbes. Au passé, ce fort de tranchée a été utilisé comme un refuge contre le dérangement des animaux sauvages ou des attaques des ennemis. Aller plus loin, vous pouvez voir une variété de punden berundak. La taille de punden varie. Il y en a 1, 2 et 3. On a prédit que le punden est une relique de l'ère mégalithique environ 2500 avant le Christ et au passé punden sert comme lieu de culte aux esprits des ancêtres ou bien comme une tombe. Dans la zone du site, il y a aussi le complexe Batu Mayat. Il y a un certain nombre de pierres rectangulaires droites et plates empilées rassemblant à un cache. Il y a aussi des pierres génitales mâles, la pierre raillée, la pierre inscrite avec la lettre T qui symbolise la fertilité, et une table de pierre, et le complexe de Batu Mayat était utilisé comme un lieu de cérémonie lié à l'adoration et la fertilité. Dans le site, il y a aussi l'étang mégalithique. Cet endroit est un endroit pour prendre l'eau, pour répondre aux besoins de la vie et à des fins rituelles. Les gens croient que l'eau de l'étang est un facteur de chance, le médicament ou le médicament pour rester jeune. Les objets du patrimoine dans le parc archéologique Pugung Raharjo ont été découverts pour la première fois le 14 août 1957 par l'habitant local. Plusieurs années depuis la découverte, on a mené diverses études dans le site. En 1976 jusqu'à 1978 et l'année 1983 jusqu'à 1984, le directeur général de la protection et du développement de l'histoire et des antiquités a effectué la restauration sur le site Pugung Raharjo. Et ensuite, ce site a été développé dans un objet touristique du parc archéologique Pugung Raharjo. Les résultats de recherches archéologiques montrent que le parc Pugung Raharjo est un site très unique et intéressant. Les objets patrimoniaux sur le site sont en pleine chronologie de la préhistoire classique à l'époque islamique. Punden, complexe batu mayat, et le pont mégalithique sont des reliques de la préhistoire. Les vestiges hindous et bouddhistes qui étaient trouvés autour du parc archéologique Pugung Raharjo comprennent le statue Bodhisattva, les statues polynésiennes, l'inscription Bungkuk, la monnaie chinoise et aussi des céramiques. Et alors que les reliques à l'ère islamique sont mises en évidence pour la découverte de l'inscription Dalung qui lit des lettres arabes. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Voici apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit le vocabulaire indonésien et vous guide pour parler l'indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence de développement et de renouvellement du langage, le ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Anda pergi ke Jogja untuk apa ?» Je répète, « Anda pergi ke Jogja untuk apa ?» Ou en français, « Vous allez à Yogyakarta, pourquoi faire ?» Allons-y. Maintenant, je vais vous donner un exemple de conversation dont le titre est « Anda ke Jogja untuk apa ?» ou en français « Vous allez à Jogja pour quoi faire ?» Comme d'habitude, je vais prononcer deux fois et vous répétez après moi. C'est la conversation entre Tony A et Cinta B. Tony qui vient d'Angleterre s'est assis à côté de Cinta. Ils sont dans la cabine de l'avion pour Yogyakarta. Cinta, Anda ke Jogja untuk apa? Anda ke Jogja untuk apa? En français, vous allez à Jogja pour quoi faire? Tony, saya ke Jogja untuk berwisata. Saya ke Jogja untuk berwisata. En français, Je vais à Jogja pour voyager. Anda ke sana untuk apa? Anda ke sana untuk apa? En français. Et vous? Vous y allez pour quoi faire? Cinta. Untuk seminar. Untuk seminar. En français. Pour un séminaire. Tony. Seminar tentang apa? Seminar tentang apa? En français. Un séminaire sur quoi? Cinta. Seminar tentang bahasa dan budaya Indonesia. Seminar tentang bahasa dan budaya Indonesia. En français. Un séminaire sur la langue et la culture de l'Indonésie. Tony. Wah, hebat. En français. C'est super. Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Anda ke Jogja untuk apa? En français. Vous allez à Jogja pour quoi faire? Anda ke Jogja untuk apa? Anda ke Jogja untuk apa? En français. Vous allez à Jogja pour quoi faire? Untuk apa Anda ke Jogja? Untuk apa Anda ke Jogja? En français. Pourquoi faire vous allez à Jogja? Anda ke sana untuk apa? Anda ke sana untuk apa? En français. Vous allez pourquoi faire? Untuk apa Anda ke sana? Untuk apa Anda ke sana? En français. Pourquoi faire vous y allez? Saya ke Jogja untuk berwisata. Saya ke Jogja untuk berwisata. En français. Je vais à Jogja pour voyager. Untuk seminar. Untuk seminar. En français. Pour un séminaire. Seminar tentang bahasa dan budaya Indonesia. Seminar tentang bahasa dan budaya Indonesia. En français. Un séminaire sur la langue et la culture de l'Indonésie. Pour connaître le but de quelqu'un, pourquoi il va à un endroit, vous pouvez demander Anda ke Jogja untuk apa? Ou, en français, vous allez à Jogja pour quoi faire? Ou vous pouvez le transformer en Untuk apa Anda ke Jogja? Ou en français, pourquoi faire vous allez à Jogja? Dans le contexte du dialogue, le mot Untuk apa ou pourquoi faire est utilisé pour demander le but. Pour y répondre, vous pouvez dire Saya ke Jogja untuk, qui signifie Je vais à Jogja pour, et puis énoncer votre objectif. Comme par exemple Untuk seminar, qui signifie pour un séminaire. Untuk berwisata, qui signifie pour voyager. Untuk jalan-jalan, ce qui signifie pour une promenade. Untuk bertemu dengan teman, qui signifie pour rencontrer des amis. Ou untuk bekerja, ou en français pour travailler. Écoutons les exemples des phrases suivantes. Tony, untuk apa Anda ke Jogja? Untuk apa Anda ke Jogja? En français, pourquoi faire vous allez à Jogja? Cinta, saya ke Jogja untuk bekerja. Saya ke Jogja untuk bekerja. En français, je vais à Jogja pour travailler. Tony, Anda ke Jogja untuk apa? Anda ke Jogja untuk apa? En français, vous allez à Jogja pour quoi faire? Sinta, untuk bertemu teman. Untuk bertemu teman. En français, pour rencontrer des amis. Dans les conversations quotidiennes, les Indonésiens disent plus souvent Saya pergi ke Jogja untuk jalan-jalan. Ou en français, je vais à Jogja pour une promenade. Ke Saya ke Jogja untuk berwisata. Ou en français, je vais à Jogja pour voyager. Comme par exemple. Sinta, untuk apa Anda ke sana? Untuk apa Anda ke sana? En français, pourquoi faire vous y aller? Tony, saya ke sana untuk jalan-jalan. Saya ke sana untuk jalan-jalan saja. Saya ke sana untuk jalan-jalan saja. En français, j'y vais pour une promenade. Voilà l'émission d'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, dont le sujet est Anda ke Jogja untuk apa? J'espère que cette édition peut être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus le bahasa indonésien. On se rencontrera encore demain avec les autres sujets intéressants. Merci de votre attention et au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine musical. On vous introduit la belle chanteuse indonésienne qui s'appelle Siti Badriah, qui était une chanteuse de dangdut. Voici la première chanson intitulée Bojoku Pawang Kota, chantée par Siti Badriah avec Mahesa, un chanteur de Banyuwangi. Bonne écoute.
Sayang udah cukup pinjemnya, nonton mulu sayang pakai datanya. Lebih baik kita iri kuota, menabung untuk kebahagiaan kita.
Bukan kita mau berhemat, aku hanya ingin belajar masak. Masih YouTube PPT cemenyewa YouTube ko iri kuota nembo ayo dicoba. Aku nonton YouTube ko liat bola liat dangdut manggut manggut. Tapi jangan sampai kamu lupa sama bojomu iki.
Pancen kue ayu tenang, aku jadi makin sayang. Ternyata pojoku pawang kuota, bisa hemat demi impian kita. Pawang kuota, bisa hemat demi impian kita. Ternyata
c'était la première chanson de Dangdut, chantée par Siti Badriah et Mahesa, intitulée Bojoku Pawang Kota, lancée le 15 janvier 2018. Cette chanson est écrite grâce à la collaboration de YouTube et le label de musique Nagaswara pour soutenir le lancement de YouTube Go comme une forme d'innovation à l'ère de la transformation numérique. Bon, chers amis, écoutez maintenant d'autres chansons de Siti Badriah intitulées Aku Kudu Kuat. Bonne écoute.
Kerjaanku menghibur kalian. Panggung ke panggung, ku selalu bernyanyi demi untuk sesuap nasi. Orang bilang ku seorang pemimpi, angan-anganku terlalu tinggi.
C'était des chansons indonésiennes, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9.5-2.5 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.